Deutsche Welle, Économie et développement.
La FAO aide des jeunes diplômés des zones rurales délaissées de Tunisie. Comment ? En les aidant à monter leur entreprise pour qu'ils aient de quoi vivre et surtout imaginer un avenir chez eux. Un programme qui prend tout son sens alors que de plus en plus de Tunisiens risquent leur vie en Méditerranée pour tenter de rejoindre l'Europe. Mais tout d'abord, nous allons nous intéresser à une polémique qui a fait rage au Burkina sur le PPP ou partenariat public-privé. C'est Claire-Marie Gostman au micro. Bienvenue. Le PPP ou partenariat public-privé est un mode de financement grâce auquel un organisme public fait appel à des prestataires privés pour financer et gérer des infrastructures ou des équipements, par exemple. Au Burkina Faso, une loi votée par les députés a fait débat. Elle porte sur l'allègement des conditions d'exécution de ces projets. Pour le parti au pouvoir, la loi va permettre d'accélérer les réformes voulues par le président, à l'image de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pour les opposants, en revanche, c'est une porte ouverte à la corruption. Plus de précisions avec notre correspondant à Ouagadougou, Richard Tiené.
À Ouagadougou, les avis restent mitigés au sujet de cette loi, allégeant les conditions d'exécution des projets de l'administration publique par le partage des responsabilités, des risques et des bénéfices entre partenaires publics et privés.
La population pense que ce sont ceux qui ont voté la loi qui vont aller voir directement leurs copains, leurs amis pour leur remettre directement le marché, alors que ce n'est pas le cas. C'est la procédure qui est moins courte maintenant. Et on va gagner un temps en faisant ça. Et aussi, ça sera une bonne chose pour le pays.
Parce que le politique, on ne peut jamais le cerner. Il est toujours ce qu'il est. Il est prêt à tout faire pour obtenir ce qu'il veut. Donc je n'exclus pas le fait que des autorités prennent ça pour en faire un outil de conquête de l'électorat.
Le mouvement du peuple pour le progrès, le MPP, le parti majoritaire, estime que le vote de cette loi sortira le Burkina Faso d'un marasme économique relativement lié à ses lourdeurs administratives. Le secrétaire national chargé des secteurs structurés du MPP, Ludovic Bakiono.
C'est des procédures de passation de marché qui seront allégées. Cela ne veut pas dire que c'est des marchés qui vont être passés. C'est d'abord le processus de contractualisation. C'est les conditions qui vont être allégées. Donc, dans les 6 mois à venir, nous allons assister à la mise en œuvre de cette contractualisation, et ce qui va permettre, peut-être dans une année ou deux, la mise en chantier de tous ces 38 projets qui ont déjà connu des études préalables.
Les députés de l'opposition ne sont pas tous de cet avis. Ils ont quitté la salle pendant le vote, à l'exception de deux. Parmi eux, Jacques Palinfo.
Il y a des moments dans la vie d'une nation, il faut prendre des décisions courageuses. Je pense qu'il va y avoir une révolution dans la réalisation, une accélération dans la réalisation de ces travaux-là. Et je le répète, et je prends l'exemple toujours de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, le premier quinquennat, a fait des PPP, en tout cas, un instrument juridique qui a permis aujourd'hui d'aller très vite en Côte d'Ivoire, en octroyant des marchés gré à gré, et c'est allé très vite. Aujourd'hui, nous sommes fiers de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas pourquoi les Burkinabés refusent qu'on aille de l'avant.
De l'avis du responsable des secteurs structurés du parti majoritaire, le MPP, des mécanismes existent pour une application transparente de cette loi. Il dénonce par ailleurs la démarche du principal parti de l'opposition, l'UPC, l'Union pour le Progrès et le Changement. Ludovic Bakiono.
L'UPC, qui est un parti libéral, l'UPC a prévu dans son programme d'aller au PPP. Deuxième élément important du programme de l'UPC, c'est qu'ils ont également prévu l'allègement des modalités de passation de marché. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et il faut rassurer que nous avons également l'avantage que les députés qui ont voté cette loi, qui sont en charge de consentir l'impôt, de suivre et vérifier l'action et contrôler l'action gouvernementale. Ils pourront également mener des contrôles pour amener des réglages ou bien attirer l'attention s'il y a des dérives.
Les députés vont prendre leurs responsabilités en cas de dérive. C'est un avis partagé par Jacques Palinfo.
L'un des rôles du Parlement, c'est de contrôler l'action du gouvernement. C'est nous qui avons apporté, qui avons voté la loi, qui avons permis au gouvernement d'utiliser les modes PPP pour réaliser les grands projets. Il y en a 38 projets structurants. qu'est-ce que le Parlement va faire? Le Parlement devait se donner les moyens de contrôler, a priori, a posteriori. Mais je crois que même le rôle du député, ce n'est pas forcément suivre même l'avis de son parti. Il doit pouvoir regarder la loi qui est en examen. Est-ce que la loi va dans l'intérêt de nos populations? Si oui, il vote en toute âme et conscience. C'est ce que le député Palinfo a fait.
Bien qu'étant de l'opposition, le député Jacques Palinfo a voté pour la loi relative au partenariat public-privé ainsi que 75 autres élus sur les 119 initialement recensés en début de session. À ceux qui étaient opposés au vote de cette loi, le président de l'Assemblée nationale a affirmé, je cite, « Quand vous les verrez sur les routes nouvellement construites, prenez-les en photo. Lors des inaugurations d'infrastructures, indexez-les aux populations pour qu'elles sachent qu'ils ne veulent pas de leur bien. » Richard Tiené à Ouagadougou pour la Deutsche Welle.
Saviez-vous que l'Afrique est la région du monde où l'inflation est la plus forte? De 2006 à 2016, l'inflation annuelle a plus que doublé en Afrique, atteignant 12,4% selon la Banque africaine de développement. Sur les 54 pays étudiés, seuls 7 ont connu une régression des prix à la consommation l'an dernier. Sans surprise, les plus mauvais élèves sont ceux qui ont vécu des crises sociales ou économiques, à l'image du Soudan du Sud, de l'Angola, de la Libye ou encore de l'Égypte. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, travaille avec les autorités tunisiennes, mais aussi la coopération italienne et la GIZ allemande, afin que la Tunisie dispose d'une agriculture durable et crée par conséquent des emplois sur place. Un objectif d'autant plus nécessaire dans ce pays qui tente de se remettre de la dictature de Ben Ali. De plus en plus de Tunisiens tentent de rejoindre illégalement l'Europe. De sources gouvernementales, à Tunis, plus de 5 200 migrants ont été arrêtés depuis le 1er janvier aux frontières terrestres et maritimes, contre 3 000 pour toute l'année 2016. Lors de la dernière journée mondiale de l'alimentation, la FAO a mis en lumière un programme pilote destiné notamment aux jeunes diplômés des campagnes du nord et du sud du pays, tentés par l'émigration car particulièrement soumis au chômage. 50 projets ont été sélectionnés. Écoutez les explications de Paola Terminé, elle est responsable au sein de la FAO à Rome de la migration rurale des jeunes en Afrique du Nord.
Une fois sélectionné ce projet, la FAO a contribué avec une petite dotation sous forme d'équipement, mais je voudrais souligner encore plus, de façon plus importante, à travers un processus d'accompagnement personnalisé et de proximité qui a duré une année pour chaque promoteur agricole. À partir de l'idée du projet, la faisabilité du projet, les plans d'affaires, la concrétisation et aussi la post-création, que parfois c'est la dimension plus difficile parce que c'est vraiment comme assurer la durabilité des projets à travers la commercialisation des produits, l'accès au marché, etc.
Je sais par exemple qu'il y avait de l'élevage ovin. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme projet?
Il y avait des projets, par exemple, pour la transformation du lait de chèvre en fromage. Et aussi des projets pour la transformation des déchets des oasis, donc des palmiers, en matériel d'alimentation pour les bétails ou comme matériel d'emballage. Donc et là, il y a aussi cette côté écologique d'économie verte qui est très important parce qu'on transforme des déchets en quelque chose de productif. Et des autres projets qui visent à valoriser les produits de terroir et de transformation des produits agricoles, par exemple la production de poudre de tomates séchées.
Et selon vous, ça a vraiment empêché ces jeunes d'émigrer?
Ouais, l'objectif du projet est vraiment de fournir des alternatives à la migration pour permettre aux jeunes de choisir de rester dans leur zone rurale d'origine s'ils veulent. Par exemple, M. Saïd Etouéti, qui est un jeune qui, avec un niveau d'instruction élevé, il est mathématicien, il a eu vraiment des difficultés à s'intégrer dans le marché du travail. Et il était très découragé parce qu'il vit dans une zone frontalière, frontalière dans tous les sens. C'est à la frontière avec l'Algérie, mais c'est aussi à la frontière économique parce que c'est une zone qui a été abandonnée par les habitants. Il y a des maisons qui sont vides. L'agriculture, c'est difficile parce que c'est un terrain qui est plein de pierres. Mais il a insisté. Il vit avec sa mère, qui est très, très âgée. Et avec le soutien de la FAO, il a commencé à faire un projet d'élevage au vent. Il a eu la possibilité de mobiliser l'appui d'un parent à l'étranger qui lui a donné un terrain pour une exploitation agricole. Il a demandé un crédit pour installer l'irrigation dans ses champs pour lui permettre de cultiver les fourrages pour le bétail. Dans ce cas, il sera un projet complet et très fort aussi. Et je peux voir que quand je parle avec lui, il a changé vraiment son perspective sur le futur. Il est très content. Il a vraiment l'envie de continuer à travailler et d'investir dans l'agriculture de saison.
Et selon la FAO, le projet pilote a permis de donner du travail à près de 400 personnes en Tunisie, comptabilisées en emplois directs et indirects. N'oubliez pas, tous nos podcasts consacrés à l'économie et au développement sont en ligne sur dw.com/français, rubrique médiathèque. Merci pour votre écoute, au revoir et à la semaine prochaine. Ooh.